Jacques Cône, Éric le Mendiant. Le 15 juin 1848, un paysan et une jeune fille sortirent de bon matin du bourg de Lannemeur et s'acheminèrent vers le petit village de Saint-Jean-du-Doigt, situé à quelques lieues de là, sur le bord de la mer. Il pouvait être 7 heures. La journée promettait d'être superbe. Le ciel étendait au-dessus de leur tête son éclatante tenture bleue, frangée de nuages blancs. Le soleil sortait étincelant des montagnes lointaines. Le souffle frais du matin courbait les arbres en fleurs et semait sur la route les gouttes odorantes que la rosée venait d'y verser. Il régnait de toutes parts un calme, une paix, une sorte de recueillement pieux, mêlé de doux et ineffables tressaillements. On eût dit que la terre, encore à demi assoupie, luttait en soupirant contre les dernières étreintes de la nuit et qu'elle murmurait doucement sa prière au Dieu du jour. Le paysan portait le costume breton dans toute son austère simplicité. Le chapeau rond à large bord, la veste de drap noir, le long gilet brun, la ceinture de couleurs diverses, la culotte large et flottante, les guêtres de toile et les souliers ferrés. Il était grand et fort, robuste et nerveux, fumait une pipe grossière et s'appuyait en marchant sur un énorme peu bas, ce rude instrument des vendettes bretonnes. Cet homme pouvait avoir une 50aine d'années environ, mais il était encore si extraordinairement bien taillé. Son visage, qui rappelait dans son ovale argileux le type primitif des Kimmeries, présentait un cachet si éclatant de fermeté et d'ardeur. Il y avait dans son regard tant de feu, dans son allure tant d'activité, que c'est à peine si on lui eût donné 40 ans. On l'appelait dans le pays le père Tanguy, et c'était le dernier descendant mâle de la famille des Tanguy du Châtel. Quant à la jeune fille qui le suivait, c'était sa propre fille. Elle s'appelait Margaret, ce qui veut dire Marguerite en breton. Marguerite avait 16 ans. Belle comme doivent l'être les anges, elle n'avait point encore éveillé son âme, qui dormait enveloppée dans les douces illusions de l'enfance. Elle vivait auprès de son père, heureuse, souriante, folle, et ne cherchait point à deviner pourquoi, de certains moments, elle sentait son cœur battre avec précipitation, pourquoi une tristesse indéfinie imprégnait parfois sa pensée d'amertume et de mélancolie. Quand ces vagues aspirations s'emparaient d'elle, ouvrant tout à coup sous ses pas des routes ignorées, elle accourait auprès de son père, lui contait avec naïveté ses tourments et ses désirs, et trouvant alors une force surnaturelle dans la parole douce et grave du vieillard, la tempête passionnelle soulevée dans son cœur se taisait, et la tristesse fuyait, la laissant candide et calme comme auparavant. Le jour, elle courait, suivant dans ses capricieux détours la petite rivière artificielle qui alimentait les prairies dépendantes de la ferme. Elle allait gaie, rieuse, folâtre, cueillant les pervenches et les bluets, pourchassant le papillon au ciel diapré, écoutant le chant des oiseaux ou le cri des bêtes fauves. Si elle rencontrait un malheureux qui lui tendait la main, elle ouvrait sans hésiter la petite bourse où elle renfermait le trésor de ses modestes épargnes et jetait généreusement une petite pièce d'argent dans la main du mendiant. Bien souvent, elle rentrait à la ferme sans la moindre obole. Et alors, si son père lui disait en prenant un air grondeur, « Marguerite, Marguerite, vous avez fait bien des folies !»« Mon père, » répondait-elle avec candeur, « j'ai rencontré tant de malheureux. » Et son père l'embrassait. Il était fier d'elle comme elle était heureuse de lui. Aussi, quand Tanneguy, conduisant sa fille par la main, se rendait le dimanche à l'église du bourg, c'était à qui chanterait sur son passage le plus joli Gerds breton. Les vieillards saluaient le père qui passait gravement au milieu d'eux. Les jeunes gens souriaient à la jeune fille dont le regard éclatait de franche gaieté. C'était un doux murmure où l'admiration et le respect étaient mêlés et confondus et qui les accompagnait jusqu'au seuil de la vieille église gothique comme un pieux et touchant concert. Telle était Margate. Jamais le moindre souci n'était venu mettre une ride sur son front si pur, et jamais la plus légère inquiétude n'avait troublé la sérénité calme de son cœur. Elle allait à travers la ville comme le voyageur à travers les forêts vierges de l'Amérique, écoutant avec ravissement les douces harmonies de la nature, admirant les merveilles de cette vigoureuse et féconde végétation, s'oubliant enfin dans la contemplation de sublimes beautés que l'art ne peut égaler. Margate ne se doutait même pas des amères douleurs qui peuvent faire la vie triste et désespérée, et elle buvait sans crainte à la coupe d'or des joies terrestres dans laquelle jusqu'alors aucune larme n'était encore tombée de ses beaux yeux. Depuis quelque temps, cependant, Margate grandissait à vue d'œil, ses formes se développaient avec grâce, ses épaules s'arrondissaient comme sous l'amoureux ciseau d'un sculpteur invisible, une flamme discrète brillait sous ses paupières brunies. La pauvre enfant ne comprenait pas bien encore ce qui se passait dans son cœur. Elle s'étonnait naïvement de ces changements merveilleux et s'effrayait même quelquefois en admirant le triple diadème de jeunesse, de grâce et de candeur dont la nature couronnait son beau front. Le vieux Tanguy et sa fille marchèrent ainsi pendant une heure environ, le premier saluant de la voix et du geste les paysans que l'aube matinale appelait au champ, la seconde envoyant un beau jour et un sourire aux jeunes filles du bourg qui partaient pour le marché. Toutefois, il est bon de remarquer que ces échanges de politesse empruntaient, de la part des passants, un caractère particulier de contrainte et de froideur. Mais le père Tanguy n'y prit point garde. Peu à peu, la route devint plus solitaire, ils se rencontrèrent à de longs intervalles que quelques voyageurs isolés, dont le visage leur était inconnu, et quand le soleil s'éleva à l'horizon, ils se trouvèrent seuls à un endroit où la route se bifurque tout d'un coup. Il y a en cet endroit deux chemins qui conduisent par des détours différents au même but. L'un plus roide et plus rocailleux offre aux voyageurs les sites pittoresques mais nus et désolés de la côte, et l'autre, qui n'est qu'un petit sentier creux, descend par une pente insensible jusqu'à la mer. Le vieux Tanguy se tourna alors vers sa fille, et lisant d'avance dans ses yeux, « Margate, lui dit-il avec un tendre et paternel sourire, quel chemin prendrons-nous aujourd'hui ?» Margate battit les mains sans répondre, frappa la terre de ses petits pieds impatients, et s'élança en poussant un doux cri de joie vers le chemin creux. Le vieux Breton la regarda un moment s'enfoncer et disparaître dans le sentier plein d'ombre, puis ayant secoué sur son pouce la cendre de sa pipe éteinte, il serra le petit bas qu'il tenait à la main et pressa le pas pour rejoindre sa fille. Le soleil s'était levé et sa vive lumière semblait tomber en pluie d'or à travers les branches d'arbres qui s'arrondissaient en berceau au-dessus du sentier. Les oiseaux cachés sous les feuilles vertes saluaient les premières splendeurs du printemps, et les deux ruisseaux qui côtoient le sentier passaient en chantant sous les fleurs embaumées de leurs rives. La nature a un langage inconnu et mélodieux qui remue profondément le cœur et fait doucement rêver. Le vieux Tanguy sentit une singulière tristesse s'emparer de son esprit, et il laissa sa pensée s'envoler un moment vers les mondes infinis de l'imagination. Quant à Margaret, elle était déjà loin. Elle avait détaché le chapeau de paille au large bord par lequel elle avait remplacé ce jour-là la coiffe traditionnelle des filles de Bretagne. Ses longs cheveux flottaient au vent sur ses épaules, et la blonde enfant courait devant elle avec un fol enivrement. De temps en temps seulement, quand, après avoir arraché au revers du chemin bon nombre de fleurs bleues et jaunes, elle se retournait tout à coup et n'apercevait plus derrière elle la silhouette aimée du vieux Tanguy, elle remontait en courant la pente qu'elle venait de descendre et s'empressait de reprendre pour un moment sa place accoutumée auprès de son père. Ce n'est pas que Margaret eut peur de se trouver ainsi seule au milieu du sentier. Margaret n'avait peur que des farfadets et des sorcières. Elle savait bien que les sorcières et les farfadets ne battent pas la campagne pendant le jour. Mais Marguerite aimait son père, et quand les papillons, la brise ou les fleurs ne lui inspiraient plus de graves destructions, son cœur tout entier revenait à son père bien-aimé. C'était une noble enfant que Marguerite, et le vieux Tanguy n'ignorait pas quel pur trésor Dieu lui avait envoyé. Dans un de ces moments où, emporté loin de son père par l'élan de sa course, la blonde enfant ne songeait plus qu'à pourchasser les papillons et les vertes demoiselles, elle atteignit un endroit solitaire, où la route se dégage tout à coup des petites haies vives qui jusque-là masquent l'horizon et permettent au regard de planer au loin sur les vastes grèves de l'océan. Soit que Marguerite se sentit touchée de la beauté du spectacle qui s'offrait si inopinément à ses yeux, soit qu'une autre cause eût fait naître en elle un sentiment mêlé de crainte et de joie. Elle s'arrêta aussitôt et croisa ses deux bras demi-nus sur sa poitrine. Puis, comme si la gaieté qui l'avait accompagnée jusqu'alors l'eût tout à coup abandonnée, comme si même une certaine terreur se fût emparée d'elle, elle regarda instinctivement à ses côtés, ne sachant si elle devait avancer ou reculer. Enfin, elle parut prendre son parti en brave, tourna vivement sur elle-même, et après un nouveau mouvement d'hésitation, elle reprit sa course et s'en alla rejoindre son père, qu'elle ne tarda pas d'ailleurs à apercevoir. La cause des craintes et des hésitations de Marguerite est trop naturelle et a trop d'importance dans cette histoire pour que nous en fassions plus longtemps un secret au lecteur. Disons tout de suite qu'au moment où la jeune fille atteignait l'extrémité du sentier où nous l'avons vue s'arrêter, un jeune homme, vêtu d'un costume élégant du matin, venait à elle monté sur un magnifique cheval de race. C'était presque un enfant encore. Il avait les yeux vifs et noirs, de longs cheveux bruns qui tombaient en boucle le long de ses tempes, et la petite moustache noire, qui décrivait une courbe gracieuse sur sa lèvre, faisait ressortir la belle pâleur de sa peau. Le jeune cavalier n'avait point remarqué Marguerite, ou s'il l'avait remarqué, il ne l'avait assurément pas reconnue, car il continua sa route sans chercher à accélérer le pas tranquille de sa monture. Son regard errait vaguement à droite et à gauche, et sa pensée suivait son regard. Il rêvait. Il rêvait à ces mille choses douces ou graves, charmantes ou terribles, qui se présentent fatalement à tout homme qui entre dans la vie. Il se disait qu'il avait 22 ans déjà, que la vie s'ouvrait devant lui et qu'il ne savait quelle route choisir parmi toutes ces routes qui s'offraient à lui. Il se demandait quel sentiment inconnu, étrange, évoquait en son cœur enthousiaste le spectacle de l'océan ou cette sublime et triste harmonie des grandes solitudes. C'était un enfant encore, et devant le problème insondable et irrésolu de la vie humaine, il se sentait d'hésiter et il avait peur. Quand le vieux Tanguy et le jeune cavalier se rencontrèrent, le visage du premier parut s'épanouir et lui fit un signe de tête plein de bienveillance et de sympathie. « Bonjour, monsieur Octave, lui dit-il en le saluant de la main. « J'espère que vous voilà matinal aujourd'hui. » Le jeune cavalier avait arrêté son cheval, et après s'être incliné devant le père de Marguerite, il avait envoyé à cette dernière un sourire particulier qui témoignait de relations antérieures. Puis il se retourna vers Tanguy. « Bon, il a bien fallu se lever de bonne heure, lui répondit-il en lui tendant une main que le Breton serra avec une affection toute paternelle. « Ma mère est allée à Morlaix ce matin, je vais à sa rencontre. »« Madame la comtesse est bien ?» demanda Tanguy. « Oh, fort bien, je vous remercie, » répondit le jeune homme. « Ah, nous avons souvent parlé de vous, Marguerite et moi, » poursuivit Tanguy après un moment de silence. « Il y a déjà quelque temps qu'on vous a vu à la ferme. Moi, je vous croyais reparti pour Paris. »« Non, » interrompit Octave. « Bon, non, je n'ai nulle envie de repartir encore, mais j'ai eu de graves préoccupations depuis que je vous ai vu. »« Des préoccupations politiques ?» fit le vieux Tanguy en souriant avec bonhomie. « Peut-être bien, » répondit Octave, en jetant à la dérobée un regard sur Marguerite. Marguerite devint rouge comme une cerise. Mais le jeune homme était pour le moins aussi embarrassé que la jeune fille, et après quelques paroles banales échangées encore avec Tanguy, il les salua tous deux par un geste gracieux, leur promit d'aller bientôt les voir à la ferme de Lammeur, et enfonça lestement ses éperons dans les flancs de son cheval. La noble bête prit aussitôt le trot, et monture et cavalier disparurent un instant après au regard de Tanguy et de sa fille. Quand ces derniers l'eurent perdu de vue, ils reprirent silencieusement leur chemin et se dirigèrent du côté de Saint-Jean-du-Doigt, dont on voyait déjà poindre à l'horizon les premières maisons. À l'extrémité du village, sur une petite langue de terre qui avançait presque au bord de la grève, et derrière un bouquet d'arbres touffus dont les tons verts et vifs se détachaient nettement sur le fond sableux de la côte, s'élevaient les blanches murailles d'une sorte de cottage solitaire. Dès qu'ils aperçurent cette charmante habitation, un rayon de joie brilla un moment dans les regards de Tanguy et dans ceux de sa fille, et instinctivement, ils pressèrent le pas et hâtèrent leur marche. Cette habitation, c'était le presbytère de Saint-Jean-du-Doigt. Chapitre 2. Le bourg de Saint-Jean-du-Doigt est loin d'offrir à la curiosité du touriste ce que le touriste est habitué à chercher en Bretagne, c'est-à-dire des monuments d'une haute antiquité ou quelque objet digne d'être soumis à l'appréciation des antiquaires de Paris. À part son église, dont quelques parties rappellent, avec assez de fidélité, l'architecture du XVe siècle, et un vase d'argent richement ciselé, que l'on y conserve comme un don authentique fait à la commune par la reine Anne, le petit bourg ne présente guère d'intérêt aux voyageurs que sa position pittoresque et la beauté du site qui l'environne. Le voisinage de la mer imprime à tout paysage un caractère de force et de grandeur. Il y a dans le spectacle de cette immense cité sans horizon, comme dans la sauvage harmonie de ces vagues incessamment agitées, quelque chose qui fascine, tourmente le regard et imprègne l'âme d'une tristesse amère et douce à la fois. En présence de cette nature sublime du livre de la nature, C'est en vain que l'on chercherait à nier Dieu. Dieu est là, il faut courber le front et adorer. Saint Jean du Doigt est bâti sur les deux versants opposés d'une petite vallée que la mer envahit souvent dans les jours de grande marée. Par suite de cette disposition naturelle du village, la population s'est partagée presque également en marins et en laboureurs. Pendant la semaine, le village n'est habité que par les femmes, les vieillards infirmes et les mendiants, et quand le temps n'est pas absolument mauvais, les laboureurs vont aux champs, tandis que les matelots gagnent la haute mer. Ce jour-là, Tanguy et Marguerite ne furent donc pas surpris de trouver Saint-Jean-du-Doigt presque désert et de n'apercevoir de loin en loin que quelques vieilles femmes occupées à filer le lin ou quelques vieillards qui se rendaient à l'église. Ils traversèrent ainsi le petit village et arrivèrent en peu de temps au presbytère. Cette habitation est l'une des plus heureusement situées de toute la côte. Placée sur le versant de l'est, elle domine à pic la vallée et la grève qui s'étend jusqu'aux extrémités les plus reculées de l'horizon. Rien n'a été négligé pour augmenter le charme de sa situation. À droite et à gauche de la cour d'entrée s'élèvent deux bâtiments de forme rustique où l'on enferme pendant la nuit les bœufs et les chevaux de labour, et au fond se détache vivement sur le ciel bleu la silhouette blanche du presbytère, à moitié cachée derrière les arbres fruitiers du petit verger qui le précède. C'est là que résidait l'abbé Kersaint. Avant d'être curé de Saint-Jean-du-Doigt, il avait été longuement vicaire à Lannemeur et c'est dans cette dernière localité qu'il avait connu Tanguy. C'est lui qui avait baptisé Marguerite, c'est lui encore qui avait donné à la femme de Tanguy les suprêmes consolations de la religion. L'abbé Kersaint était d'un de ces nobles et vénérables prêtres qui exercent leur saint ministère avec la sérénité d'une conscience pure et l'élan courageux d'une âme dévouée à l'humanité. À Saint-Jean-du-Doigt, comme à Lannemeur, il était devenu le père naturel des pauvres de la commune, et sur toute la côte, on ne prononçait son nom qu'avec une sainte et pieuse vénération. Tanguy et Marguerite connaissaient le presbytère, puis y étaient venus fort souvent déjà. Ils poussèrent donc la porte sans sonner et entrèrent dans la cour. Un énorme chien gardait le seuil de la porte, mais il reconnut vraisemblablement dans ses nouveaux hôtes deux figures de connaissance, car après avoir relevé la tête et fait entendre un grognement sourd et inarticulé, il se recoucha nonchalamment à deux pas de sa niche et regarda passer les visiteurs. Ainsi rassurée par l'attitude bienveillante du Cerbère breton, la petite Marguerite quitta aussitôt la main de son père et courut devant elle. Déjà les voyageurs avaient été signalés, et la blonde enfant atteignait à peine le seuil de la porte, que l'abbé Kersaint lui-même arrivait à leur rencontre. Ah, c'est donc toi, Marguerite, dit le vieillard, en prenant les mains de l'enfant avec une paternelle tendresse. Ah, ben alors voilà une bonne journée, puisque je te vois et que tu es en bonne santé. Monsieur le curé est bien bon. Et nous sommes toujours sages. Marguerite rougit un peu et leva les yeux vers son père qui approchait. L'abbé Kersaint fit quelques pas et tendit cordialement la main à ce dernier. Le ciel soit avec vous, Tanguy, lui dit-il. Vous êtes un heureux père, et c'est une chose rare que de vous voir sur la côte. Vous seriez arrivé au moins depuis que je vous ai vu. Oh, rien, répondit Tanguy en serrant la main que lui tendait le vieillard. Rien, non, rien, monsieur l'abbé. Si ce n'est que la République nous a envoyé quelques préoccupations que nous n'avions pas auparavant. Mais, Dieu merci! Tout prospère à l'honneur, la moisson s'annonce bien, les foins ont peut-être un peu souffert, mais les blés seront magnifiques. tant qu'il y aura de quoi faire du pain au pays, les pauvres gens n'auront pas trop à se plaindre. Vous avez raison, interrompit l'abbé avec un soupir, mais il y a bien des pauvres gens dans nos campagnes. En parlant ainsi, ils étaient entrés dans le presbytère. L'abbé avait fait passer ses hôtes dans la salle à manger et on leur avait servi une collation frugale. Toutefois, Marguerite grillait du désir de parcourir le jardin, le verger. Le bon curé s'en aperçut. Il fit un signe à Tanguy et ce dernier permit à l'enfant de s'éloigner. Cette dernière ne se vit pas répéter et quelques secondes après, on entendit les éclats de sa voix fraîche et sonore retentir autour de l'habitation.
Une belle et joyeuse enfant que le bon Dieu vous a donnée là, dit le vieil abbé, lorsque Marguerite eut disparu.
Tanguy sourit avec un faux air de modestie, à travers lequel éclatait tout son orgueil de père.
Oh, c'est ma seule consolation, répondit gravement. Dieu m'avait repris la mère, oh, c'était bien le moins, n'est-ce pas? Qui m'envoya un de ses anges pour la remplacer. Elle se fait grande déjà, bon, 16 ans à peine. Et vous ne songez point à la marier?
Tanguy sourit encore, et montrant du geste Marguerite qui courait en ce moment sous les fenêtres de la salle à manger.
La marier, répondit-il, mais voyez-la! Elle n'aime que les fleurs et les papillons. Elle naît à peine, la pauvre enfant. Je veux qu'elle ignore longtemps encore les soucis et les préoccupations de la vie. Tant qu'elle le voudra, je serai là pour lui épargner les douleurs qui sont le partage de la femme. Et si Dieu me la conserve, comme il me l'a donnée, je ferai en sorte qu'elle ne connaisse de ce monde que les pures joies et les bonheurs réels. Puis le vieux Tanguy ajouta, mais cette fois avec une sorte de complaisance paternelle. D'ailleurs, dit-il, Marguerite sera un jour, s'il plaît à Dieu, le plus riche parti de la mer. Voilà bien 16 ans que je travaille pour elle. J'ai au pays une ferme qui m'appartient en propre et qui est dans assez bon rapport. J'ai acheté dernièrement quelques bons arpents de terre avec une belle paire de bœufs et quelques chevaux de labour. Mais cela lui fera une dot présentable. Marguerite peut donc attendre et choisir. Je la laisse libre. Elle a été élevée pieusement, je suis sûr d'elle comme de moi. Et quand viendra le moment où il me faudra la remettre aux mains de celui qu'elle aura choisi, je m'y résignerai sans crainte. Bien certain d'avance que Dieu l'aura guidé dans son choix, et que son choix sera bon.
« Bof, Tanguy !» interrompit le bon curé avec bonhomie. « Vous avez été le meilleur des maris, vous serez le meilleur des pères. »«
Bon, cela me sera pénible de me séparer de ma jolie Marguerite, » répondit Tanguy en soupirant. « Mais je me suis fait à cette idée depuis longtemps, et quand viendra l'heure, je serai prêt. D'ailleurs, ajouta-t-il avec un pâle et triste sourire, vous le savez bien, monsieur Kersin, j'ai toujours nourri en moi un désir secret, celui de me retirer au bord de la mer. Cela me rappellera mon ancien métier et je m'ennuierai moins dans ma solitude si je puis, tous les matins, faire un tour sur la grève. Il y a longtemps que je serais venu habiter Saint-Jean-du-Doigt, si je n'avais pas vu au cimetière de la mer le tombeau de ma pauvre femme.
Une brave et digne femme, interrompit l'abbé. Ma petite Marguerite sera son portrait, repartit Tanguy. Même beauté, sereine, même vivacité, même cœur surtout.
Le vieil abbé suivait en ce moment les mouvements de Marguerite, qui courait, éblouie par les rayons du soleil, presque enivrée par l'air vif et par le matin. Une certaine gravité s'était tout à coup répandue sur ses traits. Il reporta doucement son regard sur le visage de Tanguy. « Tanguy, lui dit-il avec d'une voix lente et comme s'il eût pesé chacune de ses paroles, « il y a bien longtemps que vous n'étiez venu au presbytère. Et si vous aviez tardé encore quelques jours, mon intention était d'aller vous trouver à Lanmeur. » « Vraiment ? » fit Tanguy, dont l'œil s'éclaira d'une joie sympathique. « Oui, poursuivit l'abbé, j'avais besoin de vous voir. Est-ce qu'il serait survenu quelque changement dans votre position ? Non, il ne s'agit pas de moi. Mais de qui donc ? Mais de vous, mon ami. » Tanguy regarda l'abbé avec étonnement. Jamais il ne l'avait vu si grave, et il sentait une vague terreur monter de son cœur et troubler déjà son esprit. Pourtant, il tenta de faire bonne contenance. « Eh bien, reprit-il après un moment de silence, donné à la surprise et à l'étonnement, je suis heureux de vous avoir épargné le voyage. Je suis prêt à entendre ce que vous avez à me dire. » Et croyez bien d'avance que vous me trouverez tout disposé à suivre vos bons conseils. » Le vieil abbé sembla alors se recueillir, puis il reprit. « Je le sais, mon ami, dit-il, si vous connaissez au pays un homme que l'on a pris l'habitude de désigner sous la dénomination d'Éric le mendiant. Oui, je le connais. » répondit Tanguy en fronçant le sourcil. Mais cet homme, poursuivit l'abbé, parcourt journellement les communes de la côte et il va partout, semant les nouvelles bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, qu'il a recueillies sur son chemin. Mais je lui ai souvent fait l'aumône et Marguette aussi, objecta Tanguy. Oh, cela ne m'étonne pas. Il prélève dans la contrée une dîme considérable dont j'ai ouï dire qu'il faisait mauvais usage. C'est, je crois, une nature perverse, mais cet homme n'est pas seulement méchant. Il est encore très dangereux. Bon, je le sais, dit Tanguy. Ah, vous avez eu, vous, à vous en plaindre ? Oui, une seule fois. « Et depuis, vous lui avez plus l'aumône, vous ne la faites plus ?»« Non, moi, je l'ai chassé de ma terre. Mais Margaret lui donne encore de temps à autre ce que j'ai appris. »« Alors, je commence à m'expliquer l'espèce de haine qu'il vous a avouée. »« Ah, il me hait ?»« Oh, il dit du moins beaucoup de mal de vous. » Mais on n'y ajoute pas foi. Tanguy, c'est une des erreurs les plus funestes des natures loyales et droites, de ne jamais croire à la puissance des méchants. Il est bien souvent difficile, même aux hommes les plus vertueux, de se préserver de leurs terribles atteintes. Et qu'importe ce que cet Éric peut dire de moi, s'écria Tanguy, en redressant le front avec une fierté pleine de noblesse. Il y a 20 ans que j'habite le pays, monsieur l'abbé, et j'ai assez d'amis dévoués pour leur laisser le soin de me défendre contre les calomnies de tous les mendiants. Eh, oui, mais s'il ne s'agissait pas précisément de vous.
Comment ?
Ben, s'il s'agissait de Marguerite, par exemple.
Marguerite ?
Vous ne resteriez pas, je suppose, tout à fait aussi indifférent aux calomnies qui pourraient l'atteindre.
Il a dit du mal de Margate.
Le père Tanguy s'était levé à moitié. Son visage avait tout à coup pâli, et sa main puissante et robuste s'appuyait carrément sur la table de chêne. Mais l'abbé Kersin était trop l'ami de Tanguy pour ne pas aller jusqu'au bout. Et il poursuivit, malgré la colère qui grondait sourdement dans la poitrine du père de Margate.
« Bon ami, lui dit-il, me suis promis de vous dire toute la vérité et je ne vous en veux rien cacher. »
Oui, Eric a dit, et je vous le répète, pour vous mettre à même de prendre des mesures qui fassent cesser de telles calomnies, Eric a dit que depuis plusieurs mois, vous receviez fréquemment chez vous un jeune homme que sa position sociale devait au contraire éloigner de Margate.
Mais Octave, balbutia Tanguy.
Mais Octave, répéta le curé. Je sais, moi, et tous vos amis savent aussi que le jeune Octave passe chez vous, qui êtes le fermier de sa mère, quand le désir d'aller chasser dans les environs l'a réveillé de bonne heure. Mais Eric voit les choses autrement, il les répand avec des commentaires qui peuvent nuire à la réputation de Marguerite.
Le misérable ! Grommela Tanguy en enfonçant ses ongles dans la table.
Mais voilà ce qu'il dit, mon ami. Il est triste, il est douloureux d'avoir à défendre une enfant aussi pure que Marguerite de pareille indignité. Mais malheureusement, plus les calomnies sont absurdes, plus elles trouvent de crédit auprès de nos paysans. Vous y aviserez, et dans peu, j'en suis sûr, il n'en sera plus question.
Tanguy ne répondit pas. Son œil s'était ardemment fixé au parquet. Une pâleur livide s'était répandue sur ses joues. Son cœur battait à se rompre. Il se leva.
« Monsieur l'abbé, dit-il alors d'une voix profondément émue, je vous remercie pour Marguerite et pour moi, si vous avez le courage de me dire ainsi la vérité. Et maintenant, je comprends bien des choses que je ne parvenais pas à m'expliquer.
« Quelles choses ?
Fit l'abbé.
Oh, le rien, les sourires des uns, l'air contraint des autres, la joie maligne de tous. La famille, monsieur l'abbé, Marguerite est perdue. Oui, pensez-vous, mais perdue, vous dis-je. Marguerite est pure comme la rosée de mai, mais on ne le croit plus. Oh, je me vengerai. Tanguy. Oh non, ce n'est rien, soyez tranquille. J'aurai du calme, il y a du sang des Tanguy dans mes veines, et nous verrons bien. Me comptez-vous faire?
Vous allez le savoir, en peu de mots, comme il convient. Marguerite va retourner avec votre domestique, la vieille Jeanne, à ma ferme de Landemeur. Et pendant ce temps, j'irai régler mes affaires avec l'intendant des Kerhor, et demain, je quitterai le pays.
Partir demain, monsieur l'abbé.
Vous reviendrez sur cette résolution. Oh, je ne partirai pas sans vous serrer la main, monsieur l'abbé, mais je partirai. En parlant ainsi, Tanguy fit un geste d'adieu à l'abbé Kersin, et franchit résolument le seuil de la porte. Cependant, on entendait toujours, derrière les arbres du verger, les éclats joyeux de la vie de Marguerite.